Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Bonjour et surtout...
Noël, joyeux Noël.
En cette veille de Noël, nous vous souhaitons de bonnes fêtes, chers auditeurs.
Bonjour
Thomas.
Marie,
joyeux
bonjour
Noël.
À tous. Joyeux, joyeux Noël, Noël. Et je vous souhaite à mon tour, joyeux Noël. Mais pour ce faire, je vous envoie pas de bons baisers de Fort-de-France, mais je vous offre la voix d'une longue dame brune.
C'était 22h à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, il s'en allait chez Madeleine, près du pont de l'Allemand. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël.
La compagnie créole puis Barbara, un début d'émission assez éclectique, vous l'aurez compris. Puis ça tombe bien, puisque c'est une émission spéciale que nous vous proposons aujourd'hui pour vous aider à digérer la bûche de la veille et toute l'actualité politique de l'année 2012 avec elle.
Exactement Thomas. La semaine dernière, Tatiana Fauconnet vous proposait le troisième numéro de Sans langue de bois, Paroles de militants, consacré à la question des étrangers en France et plus largement à la problématique des frontières, avec autour de la table quatre militants respectivement du PS, du FN, de l'UDI et de l'UMP. Cette semaine et la semaine prochaine, édition un peu particulière du grand journal politique de la rédaction, émission Bilan, pour revenir sur le meilleur et le pire de l'actualité politique de l'année qui s'achève.
Autour de la table, Caroline et Louis, nos éditorialistes qui ont peut-être revêtu leur tenue de fête, mais n'ont pas oublié d'affûter leurs plumes pour vous livrer leur éditorial. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors également Tatiana, qui viendra nous aider à choisir la Bonjour. Femme politique de l'année. Bonjour Tatiana. Et tout de suite, après les titres, c'est Mathilde qui prendra place derrière le micro.
Mais on ne change pas les bonnes habitudes et c'est Thomas qui vous dévoile le programme de la première émission Bilan.
Émission spéciale Bilan 2012, première partie, retour sur une année chargée en politique. 2012, année électorale évidemment qui a vu le retour de la gauche au pouvoir avec l'entrée de François Hollande à l'Élysée et la victoire nette de la majorité présidentielle PS, Europe Écologie Les Verts, PRG, aux législatives. Mathilde Ferrez vous propose de revivre et d'analyser en une vingtaine de dates les élections présidentielles. Nous élirons ensuite la femme politique de l'année. La semaine prochaine, ce sera au tour de l'homme politique, notez-le bien. Comme chaque année, le Press Club a décerné son prix de l'humour en politique, nous vous en dévoilerons le palmarès. Enfin, pour ces émissions spéciales, nos quatre éditorialistes vous présenteront leur bilan politique de l'année 2012. Et c'est Caroline Bouchier et Louis Dubost qui commencent cette semaine. On commence tout de suite à feuilleter le grand album de l'année 2012 en politique. Avec toi Mathilde, bonjour.
Bonjour Thomas. Le challenge de cette semaine fut pour moi de revenir sur l'événement politique marquant de l'année 2012. Et pas de doute, en cette fin d'année, bien que l'imbroglio à l'UMP pourrait presque lui piquer la vedette, on peut dire que c'est l'élection présidentielle qui a principalement animé le débat politique.
Retour en quelques dates clés sur ce rendez-vous politique si franco-français.
Par où commencer ? En effet, les ambitions présidentielles et les stratégies des candidats pour atteindre le sommet de l'État ne commencent pas au 1er janvier 2012. En outre, des événements en dehors du cadre officiel de la campagne, mais qui la précèdent immédiatement, peuvent modifier les présupposés de départ.
À ce titre, c'est inévitablement la date du 15 mai 2011 qui résonne.
En effet Thomas, Dominique Strauss-Kahn, l'homme providentiel dont une large frange du Parti Socialiste attendait le retour, est accusé d'agression sexuelle par le procureur de New York. Quel que soit le degré de culpabilité de l'ancien ministre de Lionel Jospin, ses chances de remporter la présidentielle se sont envolées.
Et au PS, les cartes sont rebattues.
Manuel Valls, qui s'était rangé derrière l'homme du FMI, peut relancer sa candidature. Ségolène Royal, que DSK entendait circonvenir, se retrouve en position d'arbitre. Martine Aubry doit, dit-elle, faire face à ses responsabilités. Et Arnaud Montebourg change son fusil d'épaule. François Hollande demeure bien évidemment dans la course, mais avec désormais un nouvel avantage.
Ce dernier candidat, que certains se plaisaient à désigner candidat par défaut, ne le sera plus le soir du 16 octobre 2011.
Eh oui, élu avec 56,57% des suffrages par les militants socialistes et les sympathisants de gauche contre Martine Aubry, François Hollande devient le candidat officiel de la gauche française. Ce nouveau mode d'élection, dont usait déjà la gauche italienne, confère un véritable crédit à l'ancien premier secrétaire du Parti Socialiste.
Plus largement, c'est le parti qui jouit d'une nouvelle aura.
L'organisation de la primaire citoyenne a tout bouleversé. Les courants, les synthèses, les programmes, les dirigeants. Plus rien ne sera comme avant. En soumettant le choix de son candidat élyséen à la volonté populaire, la vieille organisation d'élus et de militants, héritée de la geste mitterrandienne, s'est transformée en une toute nouvelle machine à conquérir l'Élysée. En ce mois d'octobre 2011, l'idée que la gauche revienne au pouvoir devient véritablement plausible. Et même si le début de la campagne n'a lieu qu'à partir du 9 avril 2012 dans le calendrier officiel, François Hollande a du temps pour s'implanter comme l'homme fort de la présidentielle.
Alors si à gauche, Mathilde, l'élection présidentielle se joue bien avant 2012, à droite, en revanche, on use d'une autre tactique, celle de la blitzkrieg. Nicolas Sarkozy veut en effet remplir son rôle de président jusqu'au dernier moment.
Oui, alors ce n'est que le 15 février qu'il se déclare officiellement candidat sur le plateau de TF1, en pariant sur une campagne éclair. Mais entre-temps, François Hollande avait déjà marqué des points en tant que présidentiable. Son premier grand discours du 22 janvier 2012 au Bourget s'est soldé par une véritable réussite dans l'opinion. Celui qui défendait une gauche molle, celui que l'on prenait pour un homme falot, devient offensif et gagne en charisme. La gauche parvient à recréer l'espoir lorsque François Hollande propose de s'attaquer à cet ennemi sans visage, le monde de la finance.
En outre, le mois de janvier a aussi été celui de l'annonce, le 13 janvier 2012 donc, de la perte du triple A de la France.
Oui, et dans les jours qui suivent, Nicolas Sarkozy subit le contre-coup de cette annonce. Un sondage BVA pour Le Parisien montre que désormais, les Français accordent plus de crédibilité à François Hollande qu'à Nicolas Sarkozy pour résoudre les problèmes de la crise. Et l'intervention de l'ancien président le 29 janvier 2012 sur 9 chaînes de télévision ne résout rien. Il lie le destin de la France à celui de l'Allemagne et revient sur le projet de TVA sociale sans rassurer les lecteurs.
Une fois les deux candidatures déclarées, c'est de l'autre, de l'opposant démasqué, qu'il faut se démarquer. Les stratégies des deux candidats principaux s'aiguisent. L'un renforce celle déjà adoptée en 2007 et poursuivie pendant le quinquennat. L'autre joue sur le thème de la normalité, qualité rassurante, loin du faste et du bling-bling sarkoziste.
Une dizaine de jours après la déclaration officielle de Nicolas Sarkozy le 27 février 2012, François Hollande lâche une grenade sur le plateau de parole de candidat. Le candidat de la gauche veut faire rupture avec la promotion de la valeur argent. Il propose de taxer les plus hauts revenus à 75% au-delà d'un million d'euros par an. En ciblant les très hauts revenus, le candidat socialiste entend s'opposer au candidat du Fouquet's.
D'ailleurs, c'est cette même volonté qui, le 24 février, à Florange, l'avait amené à soutenir les entreprises en difficulté. Et oui, ce 24 février 2012, François Hollande avait bien promis une loi obligeant un industriel se désengageant d'une usine française à la céder à un repreneur. On connaît la suite.
Nicolas Sarkozy, en revanche, continue de creuser son sillon à droite. Il feint d'ignorer dans un premier temps les propos tenus par Marine Le Pen le 21 février 2012 au cours d'une visite surprise au marché de Rungis. La présidente du Front National avait déclenché une polémique en affirmant que toute la viande distribuée en Île-de-France était halal. Mais 10 jours plus tard, il prônera l'étiquetage de la viande halal et cachère. Et à François Fillon de renchérir, en suggérant aux juifs et aux musulmans de revenir sur les traditions ancestrales d'abattage rituel des animaux, qui ne correspondent plus aujourd'hui à grand-chose, selon l'ancien Premier ministre.
On joue avec le feu, avec la flamme, à droite. Et lors d'un déplacement début mars en province à Bayonne, Nicolas Sarkozy se brûle les doigts. Il est accueilli sous les huées.
Mais passé ce petit incident, le candidat de l'UMP reprend des forces et donne son premier grand meeting de campagne le 9 mars 2012 à Villepinte. Pendant près d'une heure, Nicolas Sarkozy défend son bilan. Il sent bien cependant qu'un vent nouveau a commencé à souffler et que l'aide des militants est plus que jamais essentielle dans le court temps qu'il lui reste. « Aidez-moi, aidez-moi, nous avons 2 mois pour bousculer les certitudes, 2 mois pour tout renverser, 2 mois pour les faire mentir », lance-t-il à la salle. Après ce premier grand meeting, les intentions de vote changent peu. Un faible sursaut de Nicolas Sarkozy, puis la même dynamique reprend.
La Fermera et les tueries qui l'accompagnent du 11 au 19 mars à Toulouse et Montauban menacent ce doux déroulement de la campagne. Nicolas Sarkozy et François Hollande suspendent le jeu politique pendant 2 jours, alors que les autres candidats continuent.
Mais l'unité nationale n'est qu'une brève illusion. Nicolas Sarkozy ne profite pas d'une circonstance qui lui aurait permis de remettre ses habits de président et Hollande parvient à trouver le ton juste pour réagir à un événement tragique.
En fait, s'il y a trouble du côté Hollande lors de ce mois de mars, c'est davantage à cause de l'extrême gauche qui semble prendre de l'ampleur. Plusieurs dizaines de milliers de personnes soutiennent Jean-Luc Mélenchon en marchant depuis la place de la Nation pour reprendre la Bastille et militer pour la 6e République à Paris le 18 mars 2012.
À droite, certains membres de l'UMP, que l'on retrouvera d'ailleurs dans le camp Fillon lors de la guerre des chefs, marque une distance par rapport à la tactique Buisson. Il souhaite ouvrir le parti vers le centre, non vers la droite extrême. C'est Valérie Pécresse, par exemple, ancienne porte-parole du gouvernement, qui estime le 26 mars dans le Figaro une éventuelle nomination de François Bayrou à Matignon en cas de réélection de Nicolas Sarkozy.
Mais les élans, Mathilde, des autres partis ne troublent que de manière très sporadique les deux grands partis français. À une semaine du premier tour, d'ailleurs, le 15 avril 2012, on ne parle que d'eux. Lorsqu'ils s'affrontent par meeting interposé, l'un à Vincennes, l'autre à la Concorde. Et le premier tour, le 22 avril 2012, confirme le poids du bipartisme. Malgré un score élevé du Front National et une renaissance modeste de l'extrême gauche, le PS et l'UMP demeurent majoritaires.
L'UMP de Nicolas Sarkozy, la perdante de ce premier tour, tente le tout pour le tout dans les deux semaines qui lui restent. C'est de la droitisation en concentré. Le candidat de l'UMP s'approprie le 1er mai, et transforme cette journée en bras de fer avec les syndicats. Sur une place du Trocadéro Noir de Monde, il revendique le droit de manifester sous les drapeaux tricolores. Le lendemain, voit s'affronter les deux candidats lors du fameux débat d'entre-deux-tours. Deux visions, deux styles surtout s'affrontent. L'anaphore « Moi président » de François Hollande marque les esprits. C'est le futur président que l'on voit s'exprimer. Il affiche une détermination douce, définit clairement comment il perçoit la fonction, tantôt en refusant le modèle sarkozyste, qui consiste selon lui à être chef de tout et en définitive responsable de rien, tantôt en s'affirmant en président garant d'une proximité avec les Français.
Le dimanche 6 mai 2012 confirme la dynamique du débat. François Hollande est élu avec près de 51% des suffrages exprimés. L'écart de points n'est pas énorme, mais le changement l'est. La gauche revient au sommet de l'État, fait inédit depuis 1995.
Oui Thomas, en revanche, les images le soir du 6 mai ne semblent pas inédites. Des roses à Solferino, une foule bigarrée à la Bastille, ont un parfum de mai 1981. Mais l'espoir n'est sans doute pas tout à fait le même, parce que le contexte est différent. La jeunesse ne rêve pas d'un monde nouveau, mais d'un monde moins mauvais. De paroles apaisantes et d'actes justes, de trouver un logement et si possible un travail. Elle sait bien que le nouveau président ne peut pas tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des tours de force de sa campagne. Il n'a pas promis grand-chose.
Alors on s'étonne un peu, Mathilde, aujourd'hui, de l'expression d'une rapide déception.
En effet, il y a bien sûr des désillusions depuis que la coque du président normal s'est heurtée au réel. Mais nous sommes aujourd'hui à 6 mois de cette élection. Peut-être paraît-il simple, voire simpliste de le rappeler, mais 6 mois ce n'est que le début des 5 ans. Et ce laps de temps ne représente rien pour une vie politique bien menée, c'est-à-dire celle qui allie réflexion et efficacité. Les questions politiques ne se résolvent pas en un clic, même si parfois on a voulu nous le faire croire pendant le mandat précédent. Un peu de patience, une grande vigilance, et à dans 5 ans, pour juger si cette France promise est enfin de mise.
Merci Mathilde.
De rien.